Un pelito le regala el chico a la chica.
Ils échangent les cheveux.
Et, la chica,
et lui, il va attacher les cheveux de la fille à l'intérieur des pompons.
Il
y a d'ailleurs un proverbe qui dit « L'homme est comme l'effet de la pluie sur l'herbe, peu importe qui arrose, ce qui compte, c'est que la femme soit arrosée. »
Épisode numéro 7. Homme, femme, mode d'emploi.
Yeah, la pâte est quoi, ça.
Parler des relations homme-femme ou de sexe, de choses comme ça, ça se fait pas, je suis un peu gêné. Par contre, vous entendre parler, c'est très intéressant.
Voyage en terre indigène.
Allô. Allô.
Une mémoire des hommes qui s'efface.
What's your name?
Anna.
Une série d'Anne Pastor. Inuit, Indien, Maasai, Papou, ils sont près de 370 millions à vivre en Amérique, en Amazonie, en Afrique ou en Asie. Souvent réduits à l'image d'objets de curiosité, ils sont pourtant notre mémoire et les gardiens de savoirs ancestraux. Alors peut-être est-il temps de les écouter. Aujourd'hui, direction le Pérou, la Chine et l'Indonésie. Au Pérou, sur le lac Titicaca, à plus de 4000 mètres d'altitude, les Indiens de Taquilé considèrent la femme comme un double indispensable à l'équilibre de la communauté. En Chine, sur les contreforts de l'Himalaya, la femme Mosso est libre de choisir ses amants. Dans une société sans père ni mari, elle joue un rôle social de premier plan. En Indonésie, la femme et l'homme Mentawai vivent sur un même pied d'égalité, dans une jungle luxuriante, bien loin de la civilisation moderne. Trois peuples, deux continents et un même voyage au cœur de l'intime.
Vous êtes en terre indigène sur France Inter.
Je m'appelle Juan. Ici, nous sommes sur la partie la plus haute de l'île de Taquilé, à 4084 mètres d'altitude. En direction du soleil, là-bas, il y a la Bolivie, la cordillère des Andes, les montagnes blanches. Et derrière la dernière montagne, c'est la capitale, La Paz. De l'autre côté, là où le soleil se lève, il y a Puno et le Pacifique. À l'époque, les Incas nous ont permis de continuer à parler notre langue.
Oui, mais vous parlez quechua.
Oui, et je peux te parler si tu veux. Je suis vraiment très heureux de nos traditions et surtout de nos vêtements, de nos costumes.
Au Pérou, chez les Aymara de l'île de Taquilé.
Sur l'île, pour nous les hommes, le pompon du bonnet, c'est très important. Celui qui met son pompon à droite montre à tout le monde qu'il est heureux, que c'est une belle journée. Maintenant, si tu croises un homme qui porte le pompon du bonnet à gauche, ouille. Ça veut dire qu'on est face à un jeune qui a sûrement un problème. Ou alors, ça peut être un adulte dont la famille est malade, ou quelque chose de négatif. Parfois, certaines familles mettent leur bonnet du côté gauche, simplement pour chasser le malheur, la malchance, ou pour éloigner les mauvais esprits.
Les Indiens de Taquilé sont des Aymara, et leur culture est antérieure à celle des Incas. Ils sont aujourd'hui 2000 à vivre d'agriculture et de pêche sur cette île de 6 km de long, perchée à 4000 mètres d'altitude, sur les eaux d'un bleu ardoise du lac Titicaca, une immense mer intérieure qui se confond avec le ciel. Pour rejoindre le village, il faut gravir 533 marches en pierre. En chemin, on croise des femmes tissant la laine avec leurs grands châles noirs et leurs jupes colorées. Les hommes, eux, portent tous un bonnet à pompons et tricotent avec la gravité des moines copistes. L'île de Taquilé est réputée pour ses tissages, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008. Les bonnets, les ceintures et le costume traditionnel sont un véritable langage qui traduit l'humeur du jour, la situation familiale ou le statut social.
Cada taquileño vive su estatus de acuerdo desde que nace hasta ser mayor edad.
Oui, vraiment, il y a un statut de costume traditionnel. Un bonnet rouge et blanc, c'est pour les hommes qui sont célibataires.
Cuando es convivencia todavía no ha celebrado el matrimonio, tiene que todavía llevar el chullo soltero o chullo diario.
Et après, quand ils sont mariés, normalement, ils portent les couleurs seulement rouge. Ça, c'est une seule couleur. En concubinage, c'est le même couleur des célibataires, rouge et blanc. Et une petite ceinture blanche qu'on voyait ici.
Pero lo que otra cosa que me dice que soy soltero y viudo es mi faja. C'est que lo que llevo en la cintura.
Et après, comme lui, par exemple, il dit non, maintenant il est célibataire, mais déjà pas un célibataire à 100%. Donc il était déjà marié, il a perdu sa femme. Donc lui, il porte un bonnet, il recommence à porter le bonnet rouge et blanc, mais comme il était marié, il ne peut pas laisser ça. C'est pour ça qu'il garde ce sac. Et après, une ceinture blanche pour dire qu'il commence à être célibataire.
Finalement, aquí en Taquile, quand un chico et une chica qui está buscando novio, finalmente el trato, o sea, que la ceremonia con intercambio de cabello aquí en Taquilé hasta ahorita existe en los jóvenes.
Es très important pour les célibataires. Si les femmes ils savent qu'ils sont vraiment célibataires à 100%, il y a des hommes qui peuvent draguer avec les filles. Donc les femmes normalement dans les temps de période de fiancés ou des amoureux, ils échangent les cheveux.
Cuando se comprometen, un pelito le regala el chico a la chica y la chica regale al chico.
Donc je donne mon cheveu et lui me donne sa cheveu. Donc on va échanger. Et lui il va attacher le cheveu de la fille dans sa à l'intérieur des pompons. Et après comme il y a une autre femme qui lui il drague avec une autre fille, s'il y a un cheveu là à l'intérieur des pompons, elle dit non, c'est pas vous êtes pas célibataire à 100%.
Has visto Saida, por ejemplo, cuando las chicas llevan, hay un pompon que le ponen acá. Ese ahí está el cabello.
C'est la même chose dans les pompons des femmes qui sont célibataires à 100%, il n'y a pas de cheveux.
Le fait d'afficher un pompon qui dit si on est célibataire, concubin ou marié, est-ce que ça change les rapports hommes-femmes?
Realmente cambia, ¿no? Totalmente cambia. Es como decir, la gente mismo te trata de otra manera ya.
Normalement, oui, ça change. Comme aujourd'hui, lui, il n'est pas marié, donc il a retourné à être célibataire. Donc, il n'a pas déjà beaucoup de respect. Donc, si lui va participer dans une fête, les familles ne vont pas respecter à lui. Parce que c'est célibataire.
Pues, o sea, el joven es como discriminado en realidad. Se ve así.
Donc c'est comme une petite discrimination pour les hommes qui sont célibataires. Donc il ne peut pas rentrer facilement dans une réunion, il ne peut pas parler, mais juste les hommes mariés qui ont le droit de parler et de discuter entre eux, mais les hommes célibataires, c'est jamais.
Taquilé est resté assez isolé jusqu'aux années 50.
Soledad Moreca Baeli et directrice du patrimoine immatériel au ministère de la Culture du Pérou.
Il faut se rappeler aussi que Taquilé, c'est une île. On est à plusieurs heures de la ville plus proche, donc il y a un groupe plus ou moins enfermé sur soi-même. Donc, la société marque des formes de vie bien encadrées. Il y a une progression dans ce qu'on fait le long de sa vie. Et les tissus marquent tout le temps le passage d'une partie à l'autre. Il faut apprendre à tisser. On apprend à tisser. Par exemple, les filles apprennent en faisant des petites bandes qui se font de plus en plus complexes à fur et à mesure qu'on apprend à tisser. Et quand on arrive à faire une ceinture complexe, c'est là qu'on est prête pour la vie familiale. Parce que quand on a appris à tricoter, on a appris la responsabilité. On a appris à écouter les autres, parce que les autres nous ont appris. On a appris la capacité d'avoir continuité dans ce qu'on fait, parce que faire une ceinture n'est pas une chose qui se fait en une journée ou deux. Il faut être constant pour avoir un tissu complexe. Donc, on est formé pour soutenir une famille quand on a appris à tricoter.
Ah,
on vient d'arriver dans la maison d'Alexandre Flores et en guise de bienvenue, on s'échange des feuilles de coca. Alexandre Flores est l'un des maîtres artisans reconnus au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est bien parce qu'on est en train de parler et vous, vous êtes en train de tricoter, c'est-à-dire que vous tricotez tout le temps.
Toujours que je tricote comme ça, toujours que j'ai fait travail, mais des fois si je tricote pas et en marchant, je file la laine aussi. Normalement, c'est plus des hommes qui en tricotent. Hein. Les femmes, non, et ils ne tricotent pas. Donc, les femmes, c'est, le travail, c'est de tisser des ceintures comme ça, de faire des tissages, mais pas tricoter.
Alors, il nous montre sa ceinture. On voit tout un tas de symboles. Et est-ce qu'il y a un symbole où il y a votre femme ?
Oui,
ici, les pigeons, les deux ici sont là.
Les deux pigeons, c'est l'homme et la femme ?
C'est ça. Ils avaient un rêve avec des pigeons, donc c'est pour ça qu'ils ont choisi cet animal des pigeons. Donc il y a toujours les pigeons, ils volent, ils ont libre. Donc les pigeons, c'est blanc aussi, donc c'est la liberté.
Qu'est-ce que vous avez dessiné là ?
Pour eux, c'est une petite ceinture, mais ça c'est pour... Après que nous, on se marie, les couples, et on peut commencer à être ensemble, mais bien, et de monter les escaliers. C'est comme un petit escalier, de monter petit à petit, et d'avoir des projets, des choses.
D'être ensemble et d'avancer ensemble, comme si finalement, vous n'étiez pas un, mais deux.
C'est tous les deux qui travaillent ensemble, la terre, c'est tous les deux qui préparent la cuisine, même si lui, il ne fait pas la cuisine, mais il est là, ils dorment ensemble, et après, il y a des idées, qu'ils parlent ensemble. Toujours, toujours, c'est vraiment deux. Il ne peut pas dire non, on va faire, je vais faire demain ça, non. C'est sans consulter à sa femme.
Voilà, il n'existe aussi qu'à travers sa femme, et sa femme n'existe qu'à travers lui.
Oui, c'est ça.
Vous êtes inter-indigène ? Sur France Inter. Au Pérou, chez les Aymara. Dans le monde des Andes, il y a ces partages en deux. Mais c'est toujours deux, c'est le jour, c'est la nuit, c'est les hauts, c'est les bas, c'est l'homme et la femme. La dualité est très importante et complémentaire. Et donc, c'est important, l'homme et la femme. Pour le travail, chacun a son rôle et la dualité, c'est ce qui permet la bonne marche de la société. La ceinture de l'homme, c'est la femme qui la tricote pour lui. Et c'est un orgueil de l'homme, parce que quand il a une très belle ceinture, très bien tricotée, qui a parfois les cheveux de la femme au-dedans du tissu, comme une marque d'identité de cette dualité, l'homme porte cette ceinture faite par sa femme en disant « Regardez la femme que j'ai, comme elle est capable de faire des choses bien faites et belles. Et ça, c'est ma femme, c'est l'autre partie de moi. »
Voilà, et alors la femme d'Alexandro, dès 6h30 du matin, est réveillée, elle s'affaire déjà devant son métier à tisser. Depuis quel âge vous tissez ?
7 ans.
J'avais 7 ans pour commencer à tisser ça.
Et aujourd'hui, vous avez quel âge ?
50 ans.
Qu'est-ce que vous êtes en train de tisser là ?
C'est une ceinture pour son mari. Elle tisse déjà, ça fait 2 mois qu'elle est en train de tisser cette ceinture.
Et vous commencez à tisser tout le matin.
Parce que le matin, les gens ils commencent à travailler à partir de 4 heures du matin. Donc, ils font jusqu'à 6h30 à 7h. Et après, ils ne font pas parce qu'ils ont besoin de travailler la terre, il y a beaucoup de choses à faire. Et le soir, ils rentrent vers 5h, ils travaillent un petit peu jusqu'à 7h, ils dorment. Le matin, ils recommencent. Donc, ça veut dire que c'est 3h, 4h par jour qu'ils font.
Voilà, puis il y a votre petite fille qui est en train d'apprendre, hein, en vous regardant.
Ok, elle a 9 ans et donc la petite fille, elle commence déjà à tisser un petit peu, mais elle ne fait pas encore des grands dessins. Mm-hmm. Mais elle fait des petits dessins comme ici des petits escaliers ou des petites fleurs.
Alors elle est toute timide, elle n'ose pas nous regarder quand elle répond aux questions. Les femmes de Taquilé sont des femmes très très timides.
Oui, ça c'est sûr. Donc les femmes d'ici, la majorité, on dirait 90% sont comme elle.
On observe à Taquilé que dans un groupe, c'est les hommes qui parlent. Mais c'est les hommes qui parlent qui ont avant parlé avec leur femme. C'est-à-dire l'homme peut être le porte-voix, mais la femme est présente dans cette opinion tout le temps. C'est-à-dire, il y a un respect mutuel. Et ça, c'est la base de l'organisation communale aussi.
Quand vous voyez les nouvelles générations et les jeunes filles, est-ce que vous trouvez ça bien, que ça évolue ?
Ok, maintenant, les enfants ont dit qu'ils ne sont pas timides parce qu'ils commencent l'éducation déjà. Ils vont à l'école primaire, ils vont à la secondaire. Donc, c'est là qu'ils apprennent à discuter avec les hommes, les femmes. Donc, aujourd'hui, c'est moi que les femmes ou les filles sont timides. Peut-être petit à petit, ça va commencer à changer un peu plus. Et qu'après, les femmes, elles peuvent avoir le droit de parler, de discuter dans les réunions ou de travailler comme en autorité aussi.
Voilà Alexandro, qui est là, toujours en train de tricoter.
Allez, pues.
Voilà.
Il a sorti à 4h45 pour travailler la terre.
Ouais. Et puis maintenant, vous allez tricoter.
Ah.
Ah, ils sont beaux tous les deux, assis l'un à côté de l'autre. C'est une belle image du couple, de l'homme et de la femme de Taquilé.
Ah.
Et on reste toujours, tous les deux souvent, on marche souvent, tous les deux. Et c'est pour toute la vie, c'est juste l'humour qui nous sépare.
Regardez cette photo de vous deux. Comme tous les jours, Alexandro et sa femme tissent sur la terrasse au soleil couchant face à l'immensité du lac Titicaca. Ils sont le symbole de cette dualité andine qui garantit tout l'équilibre de la communauté. Elle est même à l'origine d'une coutume ancestrale sur ces hautes terres péruviennes, le concubinage. Un couple ne peut convoler que s'il a soumis au préalable son union à l'épreuve de plusieurs années de vie commune. Un mariage à l'essai, en quelque sorte, que pratiquent les jeunes dès l'âge de 16 ans.
Bonjour.
Anna Luz et Andrea ont 23 et 25 ans.
23.
25.
Ils ont un enfant et ont vécu 2 ans en concubinage avant de se marier.
Quand nous avons commencé notre concubinage, on venait de se rencontrer. Nous étions au chakra, au jardin, et nous avions beaucoup de rêves et de projets. La première chose à laquelle on pensait, c'était avant tout de fonder notre foyer, notre maison.
Toujours ensemble. On s'occupe de notre jardin tous les deux. Nous tissons, faisons de l'artisanat. Nous avons aussi nos animaux. Et nous partageons tout dans le concubinage. Nous prenons toujours les décisions ensemble. Ce n'est pas lui qui commande, ni moi non plus. Toujours tous les deux. Il n'y a pas de divorce. Quand nous nous marions, c'est sacré. D'où le concubinage. Nous apprenons à nous connaître avant de nous marier. Et si on ne s'entend pas bien, on se sépare. Parce qu'une fois marié, on ne divorcera pas. C'est sacré. On ne pourra plus divorcer.
On soutient le couple. Le couple n'est pas seulement une question de deux, c'est une question de deux
famille. Alors, on soutient ces couples qui veulent se mettre ensemble. Les parents vont être d'accord, c'est pas une installation comme ça. Ça se discute, les parents en discutent sur les valeurs de ces enfants et en discutent aussi avec l'autre jeune, le jeune de l'autre famille. C'est un mariage de preuve. C'est à partir de là, au bout de quelques années, de quelques temps, que les couples décident de finalement rester ensemble, formaliser ça et faire une vie ensemble. C'est important ça parce que c'est une façon d'éviter justement les divorces parce qu'on arrive à se marier quand on connaît déjà l'autre personne. C'est une pratique très ancienne dans le monde des Andes, c'est pas nouveau. Toute cette forme d'organisation est liée aussi au travail de la terre. Pour survivre, il faut toute une organisation familiale et communautaire dans les Andes. Et c'est pas du tout occidental, ça s'est pratiqué toujours.
La femme est très importante ici.
Oui, très. Mais on va toujours de pair avec l'homme. Par exemple, si je n'étais pas là, il ne pourrait pas être une autorité. C'est le principe de la dualité andine, où l'on ne peut vivre et on ne peut s'accomplir sans l'autre. Maintenant, nous aspirons par exemple à devenir des autorités locales, faire quelque chose, avoir des responsabilités sur notre île. Par exemple, en ce qui concerne les autorités, les hommes marchent devant et les femmes derrière. Je pense que nous devrions être égaux, mais on n'est pas tout à fait. C'est notre culture. On ne peut pas la changer. On doit suivre et respecter notre culture. Ici, nous avons notre culture vivante et c'est vraiment très joli ici. Que Dieu vous bénisse et accompagne vos pas.
Voilà, et on finit notre échange par un petit peu de feuilles de coca, signe de convivialité.
Vous êtes Inter indigène sur France Inter.
De terciopelo negro, guambrita y hil, tengo cortinas. De terciopelo negro, guambrita y hil, tengo cortinas. Para enlutar mi pena, guambrita y hil, si tú me olvidas. Para enlutar mi pena, guambrita y hil, si tú me olvidas.
Homme, femme, mode d'emploi. En Chine, chez les Mosso.
Oui, alors je me souviens de la première rencontre chez les Mosso. C'est très intéressant parce que ça faisait partie du projet Souveraine et qui était de montrer que dans des sociétés traditionnelles, la femme a toujours été à l'égal de l'homme. Là, on a affaire à des sociétés où il y a un vrai, vrai équilibre et même ça peut penser un petit peu du côté de la femme, notamment chez les Mosso, qui, eux, seraient certainement une des sociétés où la femme aurait le plus de pouvoir.
Pierre de Vallombreuse est photographe. Il a publié en 2015 « Souveraine », un voyage qui explore les rapports hommes-femmes dans les sociétés dites traditionnelles de l'Asie du Sud-Est. Contrairement aux clichés, c'est parfois la femme qui domine et joue un rôle social de premier plan. C'est le cas chez les Mosso. Ils sont 30 000 à vivre en Chine, sur les contreforts de l'Himalaya.
Les Mosso ont quand même comme particularité d'être à la fois matrilinéaire, c'est la femme qui donne le nom, matrilocale, l'homme va vivre dans le territoire de sa femme. Uxoricalité, c'est quand ils vont vivre chez les parents, même de la femme. Ils pratiquent la totale. Et l'éducation, en plus, n'est pas donnée au père, mais au frère de l'épouse, de la femme. Donc ça s'appelle l'avunculat, éducation par l'oncle maternel. Donc on a affaire à un peuple où en plus la femme, c'est par elle que transitent les biens, l'argent, l'élevage, les animaux. Voilà, elle a tout, elle est dans sa maison. Et en fait, un homme chez les Mosso a plus de chances de passer presque toute sa vie avec sa mère qu'avec sa femme et ses enfants en cas de divorce.
Alors finalement, une société sans père ni mari.
Presque, c'est certainement celle qui l'a mis au plus bas. Le rôle du père et du mari. Il y a d'ailleurs un proverbe qui est assez intéressant. L'homme est comme l'effet de la pluie sur l'herbe. Peu importe qui arrose, ce qui compte, c'est que la femme soit arrosée.
Ça dépend vraiment des femmes. Certaines sont charmeuses et préfèrent changer d'homme tous les trois jours. Mais la plupart d'entre elles restent fidèles à l'homme qui leur rend visite.
Il y a chez eux une sorte de liberté sexuelle. Quand une fille devenait une adolescente, il était de bon ton dans sa famille de lui donner une chambre au rez-de-chaussée où elle puisse recevoir ses amants, en gros ses petits amis. Et après, c'est vrai que des jeunes qui se plaisent dans la rue, ils peuvent discuter, ça, ils peuvent se prendre la main. Et si jamais, en donnant la main avec le doigt, on se frotte l'intérieur de la paume, ça veut dire « je t'attends ce soir ».
Quand on est attiré par quelqu'un, on fait un geste secret. Par exemple, si tu me plais, je vais te chatouiller la paume de la main avec mon petit doigt. Et là, je verrai comment tu réagis. C'est de l'amour pur, désintéressé, sans limite, il n'y a pas d'interdit. On est libre. Les hommes et les femmes sont indépendants, sans les contraintes du mariage.
Donc ça fait fantasmer énormément les Chinois et les Han, puisqu'il y avait même des mythes, on racontait dans les textes, ces femmes qui s'accouplent sauvagement comme des animaux et ne se marient jamais, enfin voilà. Donc les Chinois dans Han, qui débarquent maintenant chez les Mossos, ils sont un peu moustillés, ils disent, ah, on va voir, c'est des gens totalement débridés, qui feraient l'amour n'importe comment, n'importe qui. C'est plus compliqué que ça. Il faut se plaire. Mais moi, j'ai parlé avec une femme un petit peu, elle m'a dit, mais tant qu'on s'aime, on reste, après on se sépare. Donc c'était l'amour qui était à la base. Ben voilà, ils ont la liberté de se séparer assez facilement. Donc dans ce cas-là, l'homme récupère sa dot. S'il est resté très longtemps, qu'ils ont pas mal d'enfants, un homme peut récupérer une partie de ses enfants, mais dans ce cas-là, il ne réclamera pas la dot qu'il a donnée.
Vers minuit, quand la nuit est bien noire et calme, on s'en va furtivement. Les anciens ont l'œil. Chez les Mossos, si toi tu es une fille et moi un garçon, et qu'on se couche dans le même lit, ce n'est pas bizarre, c'est normal. On se parle seulement pour savoir si on se plaît. On se dit des mots doux. Si je ne te plais pas, je m'en vais.
Oui, alors l'origine de cette photographie où on voit tout un groupe de femmes qui marchent en pleurs, c'était pour un enterrement. Donc on a une procession, alors il y a des feux d'artifice, des pétards, les gens passent, il y a de la musique, et puis tout d'un coup les femmes, tout le monde se met à pleurer, alors on a des pleurs qui sortent comme ça. Et puis après ça, on arrive dans les petits hôtels et l'endroit où il y avait deux maisons avec des cours. Et là, tout d'un coup, il y aura des libations où les gens vont boire, manger. Et ces femmes qui étaient dans le pleur et tout ça commencent à devenir extrêmement grivoises. Tout d'un coup, elles vont prendre un homme, se jeter sur un homme ou sur une femme, l'emmener, quitte à le prendre, il se débat, elles le prennent par les bras, 4-5 femmes, par les jambes, et on l'emmène et elles vont le faire boire. Moi, ça m'est arrivé tout d'un coup. Bon, et puis j'ai pas eu 3 femmes qui m'ont poussé, pof. Et tout d'un coup, il y en avait une qui parlait l'anglais. Et puis elle me disait, elle te plaît celle-là, allez faire l'amour dans la chambre au-dessus. Et puis moi, ça m'intéresserait de voir comment ça se passe, parce que voilà, tu vas rien comprendre à ce qu'elle va te dire. Comme je parle anglais, je pourrais faire la traduction. Donc elles ont commencé à faire des blagues extrêmement grivoises. Et donc il y a une liberté. Voilà, il n'y avait pas de tabou. On pouvait raconter des choses. Et que c'était peut-être une façon d'exorciser par cette liberté de parole, de cette alternance de joie, de pleurs. On est dans la vie, la continuité. C'est comme ça que j'ai ressenti.
Il faut frapper à la porte. Là, j'ai pas le chapeau. Mais à l'époque, on portait toujours un chapeau de feutre. Quand j'entre dans la chambre, je l'accroche sur la porte, comme un signe pour les autres qui voudraient entrer.
À 3000 km de là, en Indonésie, chez les Mentawai, l'homme ne va pas gratter à la porte de sa bien-aimée. Mais c'est d'un regard qu'il invite sa femme à le suivre dans la forêt jusqu'à la maison des cochons.
S'il n'y a pas de tabou, peut-être 3 fois par semaine, on vient ici.
Dans la maison clanique,
Il y a souvent un seul couple qui vit là. Maintenant, il y a toujours les enfants qui sont là, il y a toujours du passage. Donc s'ils ont envie de se retrouver dans l'intimité, il n'y a pas le choix, il faut aller ailleurs. Et le seul endroit en général, c'est une petite cabane, simplement avec un toit, un plancher, qui se trouve là où on élève les poulets et les cochons. Et là, on peut être à l'écart, on peut être absolument tranquille. Et là, c'est le paradis.
Vous êtes en terre indigène, sur France Inter. Voyage en terre indigène sur France Inter. En Indonésie, au large de Sumatra, chez les Mentawai.
Ici, vous êtes chez moi. Je m'appelle Aman Sindirei et je vous présente ma femme. D'y être ensemble, pour eux, c'est important. Ils veulent être ensemble le plus souvent possible. Et ils disent, on finira notre vie tous les deux ensemble. C'est vrai que dans la vie de toujours, nous ne sommes pas tout le temps ensemble. Mais pourtant, on a des enfants ensemble. On transmet quelque chose. Et ça, c'est l'important. Si on n'est pas ensemble, que je suis avec d'autres personnes, jamais je dirai du mal de ma femme. Jamais elle parlera mal de moi. Et on ne se séparera pas. Nous deux, c'est ensemble jusqu'à la mort.
Et vous êtes mariés depuis quand et vous avez combien d'enfants ?
Je ne sais pas du tout depuis combien de temps on s'est rencontrés, ni quand est-ce qu'on s'est mariés. L'important, c'est qu'on a 7 enfants.
Des enfants qui reçoivent à la naissance un prénom inspiré d'une fleur ou d'un animal. Les Mentawai vivent au large de Sumatra en totale harmonie avec la nature. Les hommes chassent à la sarbacane, les femmes pêchent à l'épuisette. Toutes les autres activités sont mixtes et en particulier l'éducation des enfants. 6 familles vivent dans l'Uma, la maison du clan, dans 2 grandes pièces, l'une réservée la nuit aux femmes et aux enfants et l'autre aux hommes et aux invités. Aman Massin Sidereï est le chef du clan. Avec son épouse Baï, ils portent tous les deux sur la tête des fleurs d'hibiscus. Leur corps est couvert de tatouages et ils sont vêtus d'un simple pagne rouge. Baï, elle, arbore un large sourire, dévoilant ses dents limées et pointues. Une tradition chez les Mentawai entre séduction et intimité.
La plupart du temps, on est plutôt tous les deux ensemble. Mais on passe déjà la journée ensemble. On discute beaucoup de nos problèmes de la vie quotidienne. Donc on n'est pas obligé de dormir ensemble le soir.
Ça doit être difficile d'avoir de l'intimité ici.
Dans la grande maison, c'est très difficile. C'est impossible. Quand il y a tous les enfants, les frères, les sœurs. Oh là là! Quand ils ont envie d'intimité, soit on va dans sa maison séparée, à part, et les jeunes, sinon ils vont dans la maison des cochons, tranquillement.
Ah. Et vous y allez encore dans la maison des cochons ?
Dit bien sûr, s'il n'y a pas de fête, si c'est hors des périodes de fête, souvent on y va encore, on aime bien être tous les deux.
Est-ce que vous pouvez me montrer la maison des cochons ?
Ciao.
Elle est loin.
Accepté.
Dans la maison clanique, il y a souvent un seul couple qui vit là. Maintenant, il y a toujours les enfants qui sont là, il y a toujours du passage. Donc s'ils ont envie de se retrouver dans l'intimité, il n'y a pas le choix. Il faut aller ailleurs. Et le seul endroit en général, c'est une petite cabane, simplement avec un toit, un plancher, qui se trouve là où on élève les poulets et les cochons. Et là, on peut être à l'écart, on peut être absolument tranquille. Et là, c'est le paradis. Je pense que pour beaucoup, c'est une maison de souvenirs aussi.
Et au bout de 2 heures de marche, à travers cette jungle entière et hostile, on aperçoit une petite cabane sur pilotis. En dessous, dans une mare de boue, des cochons réclament leur nourriture. Un escalier sculpté dans un tronc de bois permet de rejoindre le premier étage à l'abri des regards.
Alors là, Théolépone vient de donner à manger aux cochons. Donc ils sont une petite dizaine là à se battre pour manger le sagou le plus vite possible. Parce que c'est tabou de faire l'amour dans la houma, On a construit cette petite maison où ma femme et moi, on peut aller dormir ensemble, tranquillement. S'il n'y a pas de tabou, on peut venir ici. S'il y a des tabous, on ne peut absolument pas. S'il n'y a pas de tabou, peut-être 3 fois par semaine, on vient ici.
Vous êtes en terre indigène sur France Inter. En Indonésie, chez les Mentawai.
Il y a des tabous après les cérémonies. Dès qu'on a des cérémonies, on n'a plus le droit de faire l'amour. Il faut surtout pas venir ici. Surtout pas faire l'amour parce qu'on pourrait tous les deux en mourir, ma femme comme moi, on en mourrait. Les plus petites cérémonies, on va avoir un tabou pendant une semaine. Mais avec les cérémonies d'Aman Godai qui est devenu chaman, toutes les cérémonies qui ont accompagné son initiation, à cause de ça, on a eu 7 mois de tabou.
Maintenant,
il y en a vraiment plus, ça s'est terminé tout récemment et... Si jamais il y a de nouveau des cérémonies, il y aura encore des tabous. Donc là, il vient d'expliquer que ça, c'était quelque chose de très sérieux. Parce que si un tabou est brisé, il n'y a absolument aucune médecine pour soigner la personne qui, du coup, va tomber malade et en mourir forcément. Et lui, en tant que professeur, il a enseigné ça à son petit frère, à donner les délais de tabou et dire à quel moment il était possible ou non de retourner dans la maison des cochons.
Aman Telepon est un chaman. Aussitôt qu'il y a une cérémonie, quelque chose, alors là, il y a tout un ensemble de tabous qui se mettent en place. Si c'est un rituel pour donner un esprit à une nouvelle pirogue, il va y avoir tel tabou. Si c'est lié à l'eau, il va y avoir d'autres tabous. Si c'est lié à la purification du clan, c'est encore autre chose.
Et il y a toujours le tabou sexuel.
Je crois que c'est le plus lourd, celui-là, c'est le plus dur. Même s'ils doivent aller faire soigner quelqu'un, c'est pareil, c'est tabou. Donc pendant 2-3 jours, 1 semaine, 2 semaines, eh bien voilà, on doit être tranquille. L'harmonie qu'il doit y avoir serait perdue si on ne respecte pas le tabou. Ça fait partie de l'ordre des choses. Ce sont des personnes vraiment épanouies. C'est des gens qui ont été élevés totalement librement, heureux de vivre et vivant l'instant présent. Il y a un côté hédoniste comme ça. On profite de chaque instant. La chanson, c'est juste une chanson pour exprimer le bonheur d'être dans un lieu comme ça. Devant cette eau complètement pure, devant cette nature. Nous, en tant que Mentawai, on aime ces endroits comme ça. Alors souvent, on cherche à construire notre maison à côté d'un endroit de ce genre-là. Parce que si on veut venir ici, à deux, on peut être plus tranquille.
Et c'est là aussi où vous aimez vous retrouver. C'est un endroit très romantique.
Avoir un endroit comme ça à côté de chez nous, pour nous, ça nous fait du bien. On se sent bien avec cet endroit-là. On est juste content d'avoir un lieu comme ça. C'est comme ce qu'on vient de faire. Les enfants, on leur demande d'aller chercher des fruits, par exemple, on les occupe quelque part et on s'échappe. Il faut un peu de stratégie. Oui, on est toujours comme une seule personne. Et tout ça, ça fait qu'on est un, on est unis.
Ah, c'est la fait rigoler.
Si on a réussi à rester unis, c'est pas simplement parce qu'on a cette sorte de liberté. C'est aussi parce que on nous a transmis quelque chose de nos ancêtres qu'on fait naturellement. Ces endroits, ils sont à nous, mais ils étaient à d'autres avant. Et l'autre chose qui est importante, c'est de jamais dire du mal de l'autre. Jamais je vais parler de mal de mon mari, mais jamais je vais faire des choses pour l'ennuyer. Et jamais lui fera quelque chose qui ne me plaira pas. Il faut toujours faire attention à ça. On sent qu'ils sont sur la même longueur d'onde, tous les deux. Quand on parlait avec eux, on les voyait se jeter des petits coups d'œil. Ils étaient totalement, totalement liés, ensemble. Ils n'ont pas besoin de parler beaucoup, on ne les voit jamais discuter entre mes femmes très, très vite. Non, ça se passe par des petits coups d'œil, on se passe les gamins, etc. Et c'est très simple, très tranquille, en fait. Je crois que dans la culture Mentawai, l'harmonie, c'est un des mots-clés. Un couple, quand il n'y a plus de l'harmonie, peut se séparer. On peut divorcer. La femme, dans ces cas-là, elle va tout perdre. Tous ses bijoux, c'est l'homme qui garde. Par contre, on se divise les enfants. Les hommes partent avec les hommes. Les femmes vont avec la femme. Il faut que vous fassiez amis juste avec nous les femmes, qu'on reste entre femmes un petit peu.
Et elle m'embrasse et on va raconter des histoires de femmes, on va parler des hommes.
Très très vite, quand on commence à se connaître, que la confiance s'installe, alors là, les hommes, par exemple, entre hommes, on peut discuter et plaisanter sur ces sujets-là, hein. Sur les femmes, parler même crûment de l'amour, etc. On peut en parler, il n'y a pas de souci. Il faut juste que ça s'installe. Parce qu'une femme parler de ça avec des hommes, c'est pas évident. Alors qu'entre hommes, entre femmes, on en parle facilement. Parler de ces problèmes, pour moi, c'est pas tout très naturel. Parler des relations hommes-femmes ou de sexe, de choses comme ça, ça se fait pas, je suis un peu gêné. Par contre, vous entendre parler, c'est très intéressant et ça me semble facile d'en parler avec vous. Et puis le soir, c'est vrai que bon, les hommes dorment souvent sur l'avant de la maison et à l'arrière, les femmes en profite pour discuter. Il y a juste le bruit de fond des insectes, la nuit, la lumière très très basse du foyer, éventuellement d'une petite lampe à huile. Il n'y a rien d'autre. Et donc là, on peut parler beaucoup plus librement. Je crois que cette ambiance, elle incite à se livrer. Ça, le sago, c'est notre nourriture principale. C'est la base de notre nourriture. Et là, on est en train de préparer le petit déjeuner de demain matin. Donc la personne qui est à côté de nous est la personne la plus ancienne. Elle profite de ce moment aussi pour parler aux plus jeunes. Et bien sûr qu'on parle de nos hommes entre nous. Si notre mari, par exemple, est nerveux, qu'il n'est pas gentil avec les enfants, par exemple, peut-être que le soir, on va sortir de la tête de la moustiquaire et puis on va se parler tout doucement et se raconter ça. Ou alors, si on va prendre le bain à deux ou trois, on se raconte ces histoires-là ensemble. Naya.
Les chants se mêlent au murmure de la forêt, sous une pluie d'étoiles. Peu à peu, les femmes partent dormir sous la moustiquaire de la cuisine. Les jeunes, eux, s'éclipsent discrètement pour rejoindre leurs fiancés dans des cabanes secrètes. Aman Massine Dereille, le chef de la maison, esquisse un sourire songeur. Une vie de douceur, d'harmonie, bien loin des dangers qui les menacent.
Je suis quelqu'un qui est plutôt silencieux. Je parle pas beaucoup, mais ça veut pas dire que je suis pas contente. Ce que je veux, c'est que tout le monde soit heureux autour de moi aujourd'hui. Vous aussi. Alors voilà, je le dis en chanson. Mais vous inquiétez pas si je suis silencieuse, tout va bien. Je suis tranquille, simplement. Moïle, moïle, doucement, doucement. Feeling up your mind with my tongue. I didn't need to know, but now I need to run. Tonight we'll roll, we'll rock, we'll run.
À Djoubaka pour la programmation musicale que vous pouvez retrouver sur franceinter.fr. Sur notre site, vous pourrez d'ailleurs prolonger ce voyage avec la fondation Barbier-Muller et Stéphane Barelli qui a rencontré les bâtis de l'île Céram.
J'allais dans une zone qui était exclusivement peuplée en fait de musulmans, mais les rapports hommes-femmes sont très égalitaires. J'ai vu des hommes qui s'occupent des enfants quand les femmes parlent entre elles. J'ai vu des hommes qui lavaient le linge à la rivière, j'ai vu des hommes qui faisaient en fait la vaisselle, qui servaient d'autres hommes. J'ai vu des femmes sans voile qui me parlaient avec assurance, elles bombaient le torse, la tête fière, me regardaient dans les yeux. Les hommes à côté qui étaient plutôt timorés, hommes ou femmes, les deux ont les mêmes droits.
Voyage interindigène, une série d'Anne Pastor.
Montage Thomas Lupias et Mariana Baldi. Mixage Kevin Pelot. Un documentaire réalisé par David Rochier. Merci à Tanné Julien, Pascal Bonnemère, Anne-Julie Martin et Andrada Noaguiu et à l'émission Sur les docs de France Culture.
Ce programme a reçu le soutien de la compagnie Air France et de l'agence Terra Andina Pérou.
La semaine prochaine, sortir de la longue nuit. Nous irons chez les Penans sur l'île de Bornéo en Malaisie et en Colombie chez les Kankwamo.
Le voyage continue sur franceinter.fr.
Alléluia, Souhaïdès.